Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, ADA Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a 3 rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse ? Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. ADA, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode.
Les couilles sur la table, Kif Taras, le crossover des deux podcasts. Bonjour, chers auditeurs.
Bonjour.
Alors, je suis avec Grace Lee, qui co-anime le podcast Kif Taras, qui décortique tous les 15 jours avec ses invités et sa co-animatrice Rokaya Diallo, qui n'est pas là aujourd'hui, les questions raciales. Bonjour, Grace.
Bonjour, Victoire.
Et donc, dans cet épisode, on va s'intéresser aux masculinités asiatiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait d'être un homme asiatique dans un pays majoritairement blanc, à quel cliché est-ce qu'on est confronté, à quel rapport de force, à quel stéréotype. Pour cela, on va s'appuyer sur de nombreux exemples tirés de la pop culture, de films, de séries, et puis sur le vécu, le témoignage et l'analyse de nos deux invités. Stewart Cho, bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Louis Kong, bonjour.
Bonjour.
Alors, Stewart Cho, vous êtes consultant à l'Institut Via Voice. Vous avez fait des études de sociologie. Vous avez 25 ans.
C'est bien ça.
Et Stéphane Louis Kong, vous êtes réalisateur, metteur en scène. Et vous êtes l'auteur de plusieurs pièces, comme par exemple le cabaret Jaune Citron.
Oui, tout à fait.
Alors, comme on est dans un crossover Kif Taras et les couilles sur la table, je vais demander à Victoire, déjà, si c'est possible, qu'elle puisse tutoyer nos invités, parce que naturellement, elle
voilà,
les a, vous voyez.
Ah oui, pardon, c'est vrai. On adopte les codes Kif Taras, donc je vais vous te tutoyer. Voilà.
Comme on est dans Kif Taras aussi, et qu'on saute à pieds joints dans les questions raciales, et que les auditeurs et auditrices ne vous voient pas quand vous parlez, j'aimerais que vous vous décriviez physiquement, alors pour que vous vous situiez sur le plan racial et qu'on comprenne voilà pourquoi vous parlez sur les masculinités asiatiques. Alors moi, je suis une femme asiatique. Et toi, Victoire, comment tu te décrirais ?
Moi, je suis une femme blanche.
Voilà. En fait, t'as la même couleur que moi, mais elle
alors,
se dit blanche.
C'est vrai que je l'ai. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais dit, mais oui, enfin, on me demande très très souvent quelles sont mes origines.
Ah ouais.
Ouais. Mais je réponds que je suis berrichonne. Voilà, mais c'est vrai que j'ai la peau un peu mate.
Ah oui, donc on dit un peu, t'es un peu une fille du Sud ou un truc comme ça.
Non, on me dit, non, est-ce que t'es libanaise ? Enfin, tous les pays de la Méditerranée, en fait, ça marche. On me demande souvent pour tous les pays de la Méditerranée, et quand j'y vais, c'est au Portugal, on me dit, est-ce que t'es portugaise ? Au Liban, en Algérie, etc. Et sinon, les Indiens, souvent, ils me demandent si je suis indienne.
Bon, bah écoute, tu peux être dans chaque pays et faire autochtone.
Mais je pense qu'après, ça m'a jamais. J'ai jamais subi aucune discrimination en raison de cette apparence-là. Et j'ai grandi dans une famille blanche et une culture blanche, etc. Donc voilà, je suis une femme blanche.
Et toi, Stewart, est-ce que tu peux te décrire ? Et si tu te qualifies, si tu te définis, comment tu te définirais ?
Alors, au Liban, on me prend pas pour un Libanais. Non, alors moi je suis franco-cambodgien, donc j'ai des origines cambodgiennes. Plutôt petit, ça c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Assez fin, mais sinon j'ai pas vraiment réfléchi à la question de. Je me suis jamais vraiment décrit physiquement. Je pense que c'est déjà une question et un sujet en soi, mais je me suis rarement décrit physiquement.
Et je voudrais dire aussi, par rapport au fait que tu sois franco-cambodgien, moi aussi je suis d'origine cambodgienne, mais moi je suis chinoise-cambodgienne, donc j'ai la peau claire. Et toi, tu es cambodgien ?
Alors, cambodgien, donc j'ai la peau plutôt mate.
Et toi Stéphane, comment tu te définirais si tu dois te définir ?
Eh bien, comme un homme asiatique, voilà, je vais être aussi concis que toi. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais oui, d'origine vietnamienne, née en France, grandi en France. Et voilà, avec ces deux aspects français et vietnamien qui comptent beaucoup pour moi et dans mon identité.
Voilà, je vous propose qu'on démarre tout de suite, on plonge dans le sujet et qu'on parle directement d'un rapport de force qui révèle énormément de choses sur comment on considère la race en France. Et donc, je vous propose qu'on parle de séduction, de sexualité, puisque c'est l'un des domaines où ces rapports-là, entre le genre et la race, se révèlent très très nettement. Vous, quelle a été votre expérience en grandissant en tant qu'homme, vu comme asiatique, par rapport à cette capitale de séduction ou la façon dont vous étiez considéré sur le marché de la séduction en termes d'attractivité en France ?
Très attractif, très. Non, c'est vrai que ce serait mentir de dire qu'on est un peu extérieur à toutes les représentations collectives qui sont construites finalement et dans lesquelles on baigne depuis qu'on est très jeune. Personnellement, je me suis jamais vraiment posé la question sur le terrain de la séduction. Je suis en couple depuis un certain nombre d'années, depuis assez jeune. Donc finalement, cette question-là, je l'ai rarement abordée, je l'ai rarement vécue, mais je sais qu'elle existe. Il y a une présence à l'esprit finalement.
Alors c'est quoi ces clichés, ces stéréotypes, Stewart ?
C'est effectivement le fait de ne pas être forcément un modèle de virilité qui se diffuse depuis un certain nombre de temps et puis qui se diffuse par un ensemble finalement de vecteurs. Alors c'est des représentations, je disais, collectives dans les médias, ça peut être aussi dans tout ce qui est artistique. Donc c'est vrai que c'est des choses que l'on retrouve assez régulièrement et des choses qui sont appliquées dans le quotidien. On est très souvent sujet parfois à des moqueries, à une forme de différenciation, presque de marginalisation sur certains points. C'est des choses qu'on a à l'esprit, que j'ai personnellement, moi, pas vraiment vécu, mais pour des raisons qui sont les miennes, parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis en couple depuis assez longtemps. Mais je sais que c'est quelque chose qui existe et qui peut être aussi problématique et qui nous met, tu parlais, Victoire, dans un rapport de force, effectivement, dans un rapport de force, en plus avec nous-mêmes, avec notre rapport au corps. Donc c'est vraiment pas évident de d'émerger de tout ça.
Stéphane ?
Oui, ben, je vais rebondir sur ça. C'est vrai que globalement, je pense que l'homme asiatique, ou si on remonte un peu plus loin, même au moment de l'adolescence, en dehors même de la désexualisation, je pense qu'il y a même une forme d'invisibilité. C'est-à-dire que l'homme asiatique n'existe quasiment pas. En termes de séduction, il n'est pas considéré. On peut considérer que ça peut être éventuellement un bon ami, la personne qui va vous aider à faire vos maths, etc. Mais le petit ami idéal, non. Donc tout ça est un peu ancré de façon sourde dans un imaginaire collectif, effectivement. Effectivement, comme disait Stuart, les médias ont beaucoup participé à ça pendant un certain temps et on espère que là, les choses commencent à changer. Mais en effet, je pense que voilà, c'est une forme d'invisibilité, le fait de ne pas exister sur ce marché, comme tu dis.
Alors moi, je vais jeter le pavé dans la mare tout de suite. Hein.
Vas-y.
J'aimerais qu'on parle du petit zizi.
Oui,
parce que ça, c'est quelque chose.
Donc oui, parce qu'un des clichés sur les hommes asiatiques, donc là, il n'y a même plus de différence qui est faite, hein, cambodgien, japonais, ouais, chinois et tout, c'est que voilà, un homme asiatique a un petit pénis.
Ouais, sans fausse pudeur, c'est la représentation qu'on a des hommes asiatiques, ce truc qui serait, quand tu dis moins de virilité, c'est pas un modèle de virilité, c'est équivalent au fait qu'il ne serait pas bien doté. Mmh. Et du coup, ça, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez, en tant qu'homme, ressentir? Alors, je voudrais dire, déjà, dans la sphère hétérosexuelle par rapport aux femmes, c'est parce que c'est quand même, on le sait ici dans ce podcast Les Couilles sur la Table, que c'est un des organes sexuels qui est censé procurer du plaisir à la femme, en tout cas dans la construction.
Oui, avec l'idée que voilà, un gros pénis est associé à la virilité. Plus on en a une grosse et plus c'est viril. Enfin, ça, on l'a vu au fur et à mesure des épisodes et tout, que c'est vraiment
un attribut idéal.
Viril, ouais. Ouais.
Et aussi dans la sphère homosexuelle, parce que le rapport de force dans la domination et dans le marché matrimonial, il est aussi présent. Il y a une certaine image des hommes asiatiques en couple dans les relations gays. Est-ce que vous, ça vous a gêné ou est-ce que ça vous a... voilà.
Bah, c'est vrai que dans la sphère homosexuelle dont Stéphane. Je peux parler...
Parce que toi, tu es un homme gay.
Oui, tout à fait. Donc, il y a aussi des clichés, c'est-à-dire que... l'homme gay asiatique est souvent considéré comme une petite crevette, docile, à la peau douce et passif, en général. Donc, là,
ça veut dire qu'il est pénétré et il n'est pas pénétrant, c'est ça le cliché.
En l'occurrence, là, les problèmes, les questions de taille de sexe interviennent sans doute moins. Donc, effectivement, il y a une sorte de généralisation, heureusement c'est pas systématique, mais une sorte de généralisation, si tu es gay asiatique, tu es forcément passif, etc. Donc les clichés existent, y compris dans une minorité, au sein d'une minorité. Donc oui, c'est quelque chose auquel on peut être confronté assez régulièrement. Après, comme pour tout cliché, qu'il soit sexuel, lié au genre ou à la race, il faut savoir le détourner, en jouer, s'en moquer, en rire.
Mais il existe quand même très fort.
Mais il existe de façon très forte.
Je me souviens d'avoir vu passer des articles sur l'application Grindr, donc c'est une application de rencontre pour les hommes homosexuel, où il était écrit sur les profils « no Asian ».
Oui, oui.
Donc ça veut dire « pas d'asiatique ».
Oui, 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 c'est quelque chose qui est encore assez fréquent, effectivement. Donc,
vous l'avez vu ?
Oui, oui, je l'ai déjà vu, effectivement. C'est pas considéré comme spécialement sexy. C'est pas forcément le meilleur produit sur le marché, si j'ai envie
vous
de...
Vous voulez dire l'homme asiatique ?
Voilà, oui. Et du coup, après, il y a aussi quand même, de la même manière qu'il peut y avoir une fétichisation de la femme asiatique, il peut aussi y avoir une fétichisation de l'homme asiatique gay. Donc, et là, auquel cas, on est sur, comme je disais tout à l'heure, des jeunes gens, voilà, passifs, imberbes.
Moi, j'ai vu que ça s'appelait des rice queens.
Oui, tout à fait.
Attends, qu'est-ce que c'est un rice queen ?
Alors, un rice queen, c'est un homme blanc gay qui ne sort qu'avec des Asiatiques.
Et les gens, ils se revendiquent de ça ?
Ben, ils peuvent se revendiquer, oui, oui, oui. De la même manière que des Asiatiques peuvent dire, ben, moi je préfère les Rice Queens pour une raison X ou Y.
Et il existe aussi un nom pour les personnes Asiatiques qui ne sortent qu'avec des Blancs.
Oui.
Ah, d'accord.
Ah,
alors
oui,
moi j'ai vu, avec les Asiates, avec les Blancs uniquement, ça s'appelle
Potato Queen, ouais. Absolument.
Des quoi, des Potato Queen ?
Parce qu'une patate est blanche, donc voilà. Donc ce sont,
il y a toujours
des... Ou jaune, c'est vrai, mais bon,
violette,
on a gardé le blanc. Ou rose. Et pour les Asiatiques qui ne sortent qu'entre eux, c'est le sticky rice, donc le riz gluant. Parce que les grains de riz collent entre eux, voilà. Bon, faut avoir aussi une forme, faut y voir une forme aussi de dérision. En fait, c'est une sorte d'argot gay, une façon de se définir de façon parfois moqueuse, certes, mais qui en dit aussi beaucoup sur ces catégorisations.
Oui, sur le fait que, enfin, c'est comme si c'était le premier critère, le seul important, celui qui définissait toute la personne, quoi. De dire no Asian, ça veut dire peu importe à quoi tu t'intéresses, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes goûts, quelle est ta personnalité et tout, je ne vois chez toi que le fait que tu sois un homme asiatique et c'est ça qui m'intéresse ou qui ne m'intéresse pas.
Exactement.
C'est très violent comme.
Ben, c'est assez violent, c'est toute forme d'exclusion est violente et quand on est sur. Ce type d'application, de rencontre, où on se dit, voilà, c'est l'ouverture, etc. Voilà, après, il y a d'autres groupes hein, qui sont discriminés. On voit régulièrement pas de gros, pas de personnes efféminées.
Et no fat,
voilà,
no femme.
Exactement. Mmh. Et puis, bon, on voit aussi d'autres groupes qui sont exclus. Hein, mais asiatique, ça revient quand même assez régulièrement.
Alors moi, j'ai vu, en tant que femme asiatique, de nombreuses femmes asiatiques dire qu'elle ne sortait pas avec des hommes asiatiques. Donc ça arrive assez souvent dans les réseaux, sur les réseaux sociaux.
Là, on parle dans la sphère hétérosexuelle.
Hétéro, ouais.
D'accord.
Et donc, il y a des femmes qui pensent que sortir avec un homme asiatique, c'est soit cliché, bon, c'est-à-dire qu'on reste entre nous, les communautés ne se mélangent pas, etc. Et aussi qu'en termes de virilité, elles peuvent obtenir mieux. Comme si, tu sais, il y avait une hiérarchisation des virilités, des modèles.
Enfin, il y en a une hein, voilà. qui est socialement construite, etc. Mais voilà, ça se voit dans ce genre de cas.
Ça se voit puisque tout en haut de cette chaîne, il y a l'homme blanc. Et donc, ce sont des femmes asiatiques qui se réclament, qui se disent, voilà, moi, je suis avec des blancs parce que je peux, parce que je suis assez jolie pour le faire, parce que moi, je ne m'abaisserai pas à sortir avec des hommes asiates. Et donc, moi, en tant que femme asiatique, j'ai eu ce sentiment-là, parce que j'ai été nourrie dans un... Moi, je vécu en France, donc j'ai été nourrie d'imagerie collective liée au fait que l'homme asiatique n'était pas quelque chose de... C'était pas le trophée que tu allais brandir auprès de tes copines en disant...
Pas le petit ami idéal, quoi.
Pas le petit ami idéal, voilà. Et en revanche, j'ai quand même ressenti, moi, le fait que si je m'étais... Enfin, je me suis quand même intéressée à des hommes asiatiques, puisque j'en ai rencontré dans ma vie qui m'ont plu. Et je me suis aussi rendu compte que je ne leur plaisais pas. C'est-à-dire que s'ils pouvaient, ils sortaient avec une blanche. Et pas moi. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que... Je me rendais compte que moi non plus, je n'étais pas la petite amie idéale pour un homme asiatique, parce que j'étais moi-même asiatique, et que j'avais cette image de docilité, de femme qui n'était pas ce que lui pouvait brandir en termes de trophée. Et la seule fois où, la première fois où j'ai eu un petit copain asiatique, il était américain. C'était un Asian American, avec tout le package, tu sais, de la Californie, tu sais, il était bronzé, il avait une moto, enfin bon bref, voilà. Tu vois, les films de teenager avec une prom night, bah, c'était lui, tu vois. Et lui, ce qu'il a vu en moi, il a déjà vu une européenne. Et ça, c'est la première fois qu'on ne me niait pas le fait que je sois française. Il me dit « Ah, French, French !»
Ah oui, pour lui, t'étais beaucoup plus française qu'une femme asiatique, en fait.
De son environnement, c'est-à-dire que lui, c'est un Américain, donc il connaissait des femmes asiatiques américaines. Et il a vu venir une femme asiatique, mais pas américaine. Donc du coup, il s'est dit « C'était ça qu'il voyait en premier, c'est incroyable !» Et voilà, donc c'était l'une des seules interactions que j'ai eues avec des hommes asiatiques, parce que sinon, moi-même, ce cliché-là a beaucoup joué pour moi.
Mais je trouve très intéressant ce qu'on se dit, parce que finalement, ça pose l'action du corps différemment. C'est-à-dire que le corps, on pense que c'est toujours un rapport à soi, mais c'est d'abord un rapport à ce que les gens peuvent en dire. C'est-à-dire que le rapport au corps, c'est d'abord le rapport de l'interprétation que les autres portent sur nous-mêmes. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est très compliqué pour la communauté asiatique, parce que, et c'est ce qu'on se disait, c'est la première question, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de représentations collectives qui ont établi des interprétations qui sont comme elles sont aujourd'hui et sur lesquelles nous, on doit, enfin contre lesquelles parfois on s'est amené à se positionner. Et c'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit. Je suis très mal à l'aise, ça paraît peut-être un peu ridicule, mais je suis très mal à l'aise quand avec des copains ou dans des apéros, tout ça, on parle de sites de rencontres genre Tinder, etc. Parce qu'il y a une forme de projection, je me dis, mais si j'avais été dans ce cas... Qu'est-ce que j'aurais fait ou quelle position finalement
exactement
j'aurais eu. Et je pense que cette expérience-là, voilà, n'aurait pas été peut-être évidente non plus, une forme peut-être de, on en parlera après, mais de vulnérabilité, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit. Signe que l'interprétation collective finalement s'est diffusée, s'est intériorisée, même dans la communauté asiatique. Et tu vous en parliez tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que même les Asiatiques ont intériorisé cette interprétation, finalement, contre laquelle, parfois, ils souhaitent lutter.
Mais il y a des statistiques qui ont été faites. Alors, en France, bon, c'est des statistiques américaines, parce qu'en France, ça n'est pas possible de faire ce genre de statistiques, mais il y a un site de rencontre très populaire aux États-Unis qui s'appelle OkCupid. Et OkCupid a publié une étude en 2009, et puis ils ont réactualisé en 2014, et en fait, ils ont trouvé les mêmes résultats, c'est-à-dire que les utilisateurs asiatiques, les hommes asiatiques, étaient généralement considérés comme moins désirables que les autres. C'est-à-dire que de toutes les catégories, c'était eux qui étaient considérés comme les moins désirables. Voilà. Au contraire des femmes asiatiques.
Oui.
Donc voilà, ça se vérifie sur les sites de rencontres et il y a des chiffres quoi, là-dessus. Donc,
Et justement, ce que tu disais, toi Stéphane, par rapport à l'hypersexualisation de la femme asiatique, enfin de l'homme, mais l'hypersexualisation de la femme asiatique, c'est le pendant de ce qu'on dit là pour l'homme asiatique. C'est-à-dire que le fait que la femme asiatique est censée avoir un petit vagin pour donner du plaisir à l'homme, enfin tout est petit dans ces êtres-là.
Il y a vraiment une image, la femme asiatique est sursexualisée et l'homme asiatique est sous-sexualisé en fait. Mais il y a une auditrice qui m'a écrit il y a quelques mois qui s'appelle Juliette, qui est une femme blanche, et elle est en couple avec un homme asiatique. Et elle m'a écrit qu'elle avait été très peinée et très choquée quand elle a été confrontée à des remarques, je cite, ahurissantes de mes proches, qui sont soudainement devenus experts en comparaison des tailles de pénis selon l'origine géographique et en histoire sexuelle de l'Extrême-Orient. Elle dit, en les écoutant, eux qui se sont toujours opposés au racisme, je me suis rendu compte que l'homme blanc définit sa sexualité comme normale en face d'un homme noir qui est sursexualisé et d'un homme asiatique qui est sous-sexualisé. Et évidemment, tout ça, ça a à voir avec les représentations qui sont données dans la pop culture et aussi par rapport à l'histoire quoi, du pays. On va y venir dans quelques minutes. Mais c'est vrai que la vision des idéaux de beauté en France, de qu'est-ce que c'est un homme sexy, bah, c'est un homme qui est toujours représenté de la même façon. En fait.
Oui, c'est le...
Il est grand, voilà. il a des grands yeux, il a un nez fin,
il est musclé.
Voilà, c'est l'homme blanc, quoi.
Voilà, l'homme blanc de la figure protectrice, paternelle, voilà.
Ouais. Ça, on va en reparler dans les figures de la pop culture actuelle. Souvent, quand on parle de ce sujet, on oppose toujours un exemple qui est « Ah, mais si, regardez, il y a quand même eu l'exemple de l'écrivaine Marguerite Duras, qui a écrit 3 romans, plus ou moins autobiographiques, mais qui sont « Un barrage contre le Pacifique », L'amant, et puis L'amant de la Chine du Nord. Elle les a écrits à 20 ans d'intervalle, et chaque fois, elle revient sur son histoire d'amour, son histoire d'amour, avec un homme chinois, quand elle vivait en Indochine, parce que c'est là qu'elle a grandi, donc c'était une jeune femme pauvre qui a cette histoire, et Grace Lee, on en a beaucoup parlé toutes les deux, et je crois que tu voulais lire un extrait de L'amant de la Chine du Nord.
Ouais, je vais lire un extrait du début de L'amant de la Chine du Nord, parce que pour moi, cette œuvre, ces œuvres, puisque à la fois il y a eu l'œuvre littéraire et l'œuvre cinématographique, elles ont beaucoup compté. Moi, je suis une enfant des années 80-90, et donc toute la culture française a été infusée par cette imagerie pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, je pense que...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On est encore dedans. Le chinois ne parle plus à l'enfant. On dirait qu'il la laisse, qu'il est dans la distraction du voyage. Il regarde le dehors, elle regarde sa main qui est sur la coudoir de la banquette. Il a oublié cette main, du temps passe. Et puis voici que sans le savoir tout à fait, elle la prend. Elle la regarde, elle la tient comme un objet jamais vu, encore d'aussi près. Une main chinoise, d'homme chinois. C'est maigre, ça s'infléchit vers les ongles, un peu comme si c'était cassé. Atteint d'adorables infirmités. Ça a la grâce de l'aile d'un oiseau mort. Donc ça, c'est au début du texte, c'est quand ils sont dans la voiture et que le chinois l'a récupéré donc sur le bac.
Il n'a jamais de nom d'ailleurs.
Personne n'a de nom dans le roman,
oui,
mais
bon, c'est vrai.
Être appelé l'enfant ou appelé le chinois, c'est quand même deux choses très différentes. Hein. Mmh. C'est-à-dire que être référé à son âge ou être référé à son ethnicité, c'est quand même deux choses très différentes. Bon, déjà, je voudrais dire que quand tu dis oui, l'exemple de l'homme asiatique, c'est vrai que dans ce film et dans le livre, on a le corps de l'homme chinois à poil tout le temps. Très sensuel, etc. Et donc, il y a eu, on pourrait penser que c'est effectivement, ah oui, mais regarde, là, on le voit dans un acte sexuel, donc c'est censé aller contre ce stéréotype. Mais en fait, pour moi, ça a renforcé, c'était un peu l'exception qui confirmait la règle, en fait. Parce que, déjà, on parle d'une exception. Parce que Marguerite Duras, déjà, c'était une famille blanche, pauvre, dans les colonies. Bon, autant te dire qu'il y en avait beaucoup moins que des familles asiates pauvres. Hein. Donc, c'était déjà une exception en soi. Ensuite, elle tombe amoureuse d'un Chinois. Enfin, elle tombe amoureuse, non, elle tombe... elle tombe.
Bon, c'est une relation compliquée.
Elle le rencontre.
Voilà. Elle rencontre un homme asiatique. Elle s'amourache de lui et ils ont une relation sexuelle. Enfin, une relation longue. Et elle le fait parce que... elle a choisi le pire cas pour se déshonorer. Enfin, c'est ce qu'on comprend ensuite, c'est-à-dire que c'est une fille qui cherche absolument à faire quelque chose qui la coupe de sa famille pour pouvoir écrire ensuite, parce qu'elle est habitée par cette passion. Elle choisit cet homme parce qu'elle sait que c'est la pire espèce,
elle
en fait.
Elle ne peut pas faire pire.
son frère, sa mère, son entourage la regarde vraiment comme si c'était une traîne. D'ailleurs, ils disent dans le livre, hein, maman pute, enfin, je sais plus ce qu'ils disent, mais c'est vraiment, elle a choisi la pire espèce d'homme pour se compromettre. Et donc ça vient renforcer l'idée que, notamment dans les colonies, mais aussi ici, l'homme asiatique, c'est une denrée pas périmée, mais non souhaitable, en fait. C'est quelque chose qui va te compromettre, ma fille.
Très juste. Du coup, c'est une transition parfaite pour parler de d'où viennent tous ces clichés, qu'est-ce que c'est, comment on peut l'expliquer par l'histoire, et donc par l'histoire coloniale, hein, de la France, mais aussi de l'Angleterre, et aussi l'histoire des États-Unis, enfin bref, toute l'histoire... Là, des relations des pays occidentaux avec l'Asie. Alors, comme je disais, il y a assez peu d'universitaires qui ont écrit sur ces questions en France, mais quand même, là, l'année dernière, il y a eu la publication d'un livre qui s'appelle « Sexe, race et colonies », qui était dirigé par Pascal Blanchard, où il y a une centaine de contributions. Et donc, il y a quelques passages qui examinent les masculinités asiatiques dans différents contextes. Je vais en citer quelques-uns. Il y a un court paragraphe sur les hommes anglais et les hommes indiens. Et donc, comment l'anglais viril, donc le colon, a façonné l'image du bengali efféminé, qui est resté encore aujourd'hui, en fait. Et donc ça, on le voit aussi. J'ai lu aussi des textes sur, en Angleterre, comment les indiens étaient aussi dévirilisés, etc. Et pour la France... Il y a le cliché de l'officier blanc et son boy indigène. Donc c'est Christelle Tarot qui écrit ça. Elle écrit « Quelle que soit la position de l'indien au sein de ces catégories binaires et archétypales de l'indien, l'anglais, le viril, le non-viril, en fait c'est comme l'arabe dans l'empire colonial français. Il doit être domestiqué pour assurer simultanément la stabilité et la pérennité de l'ordre colonial. » Que cette domestication, qui construit et éclaire le rapport de domination raciale entre hommes dans le Raj britannique et son armée, s'incarne tout particulièrement dans le couple que forment l'officier blanc et son boy indigène. Donc le boy qui, même si lui est aussi militaire, n'en fait pas moins office de serviteur chargé des questions domestiques. Que cette relation particulière d'une grande proximité repose sur une véritable homosocialité, pouvant se transformer dans certains lieux et dans certaines situations en relations homosexuelles. Même si celles-ci ne sont pas systématiquement assimilées à l'efféminement du boy indigène, comme c'est souvent le cas en contexte civil, car ça correspond aussi à un idéal masculin, des hommes entre eux, de l'armée, etc. Mais il y a quand même ça qui se joue, quoi. Et on a hérité aussi de ce cliché-là, en fait. C'est-à-dire que pour asservir des populations, pour les vaincre et les dominer, il faut aussi les efféminer, en fait, et construire cette image-là de la population colonisée comme efféminée. Alors même que ces questions-là, elles ne se posent pas du tout de la même façon. Personne va dire tous les hommes asiatiques dans notre société, ils sont pas virils.
Non, effectivement, on ne se pose pas la question sur place. En fait, là, ce dont on parle, c'est un héritage d'une vision blanche, masculine, hétérosexuelle. C'est la seule voie qu'il y a eu pendant longtemps. Ce sont eux, principalement, qui ont colonisé donc des hommes. C'est eux qui ont exprimé leur voix, leur récit, leur vision. Donc forcément, aujourd'hui encore, on hérite de ça. C'est aussi simple que ça, en fait, je pense.
C'est vraiment important de le rappeler parce qu'on fait toujours comme si c'était une histoire qui était passée, comme si ça n'avait aucune conséquence dans nos vies et tout, alors qu'à l'évidence, au quotidien, cette histoire-là coloniale et le récit que ça a imposé, les rapports de force que ça a imposé, eh ben, ça a des conséquences dans nos vies jusqu'aux détails les plus intimes, en fait.
Moi, je me rappelle souvent de cette scène dans l'un des films, c'est dans Full Metal Jacket, je crois, la scène du $5. C'est-à-dire qu'il y a des militaires américains, des GI, qui sont au Vietnam, et c'est dans la rue. Et donc, il y a une femme asiatique qui passe, et forcément, c'est une prostituée. Et elle dit aux hommes, $5, $5. C'est Full Metal Jacket ou c'est Apocalypse Now? Enfin bon, c'est un film, c'est l'un de ces films de guerre américains sur le Vietnam. De toute façon, c'est tous les mêmes. Il y a toujours des hommes blancs qui sauvent des pauvres Vietnamiens qui ne savent pas comment ils vont faire pour s'autogérer. Et moi, ça m'a vraiment marqué cette scène de la prostitution parce que moi, on me disait, $5, $5. Cette idée que toutes les femmes asiatiques seraient des prostituées et de la même manière, tous les hommes asiatiques seraient soit des prostituées, soit des boys ou des outils pour la colonie, pour les colons.
Ben, disons que pour les personnes de notre génération, on va dire, les seules représentations asiatiques à l'écran à l'époque, c'était les films de guerre du Vietnam, donc, ou aux actualités. Donc c'était forcément des situations assez tragiques. Et quand on avait des personnages, ben, pour les femmes, c'était des prostituées 99% des cas. Les hommes existaient à peine, mais effectivement, voilà, c'était complètement secondaire, voire absolument minoritaire. Donc,
ouais, pas de prénom.
Pas de prénom, puis surtout pas de consistance. Rôle, quoi, pas et de, ouais. Encore une fois, pourquoi ? Parce que c'était la vision blanche américaine, de ce point de vue. Donc, forcément, ils racontaient leur point de vue et ils font ce qu'ils veulent, mais en même temps, voilà, cet héritage perdure et il est temps aussi de bousculer un peu ça.
Et c'est exactement ce que disaient tes invités dans l'un des premiers épisodes d'Écoute sur la table que j'avais écouté, que j'avais beaucoup aimé sur les masculinités noires. Ils parlaient tous deux d'une colonisation par le ventre et par le sexe, et ça m'avait vraiment frappé parce que c'est exactement la même chose qui se passe, mais avec des détails différents. Donc c'était Insa Sané et Dede Cabal qui disaient que on va civiliser l'homme noir en copulant avec son épouse. Et c'est exactement ce qui se passe dans sur tous les territoires où la colonisation a eu lieu. C'est-à-dire que la femme devenait un butin et l'homme devenait un outil. Donc la femme, elle sert à asseoir aussi la virilité des mâles qui arrivent, puisque grâce à elle, ils vont pouvoir faire mal en fait, aux populations locales en disant « Regardez, on est les maîtres chez vous parce que vos femmes sont les nôtres. Mmh. » Par ce biais-là, il y a une soumission qui se fait des peuples locaux.
Même à l'inverse aujourd'hui, donc là on a parlé de colonies, mais sur le fait migratoire aujourd'hui, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de dire que, c'est de parler du corps dans son rapport, comme on a dit, à son histoire et à ce que cette histoire représente.
Toi, tu as fait tout un mémoire à la fin de tes études.
J'ai fait un modeste travail sur la question de la mémoire
corps.
Et voilà, la mémoire portée en partie par le corps dans les populations franco-cambodgiennes. Le rapport que l'on a à son corps, c'est aussi le rapport que l'on a à son histoire, à ses origines, à celle de ses parents, et du coup à sa mémoire. Et le rapport que l'on a à sa mémoire, c'est un rapport qui est dynamique, c'est-à-dire la façon dont j'interprète ce dont j'ai hérité diffère du moment de ma vie. Et ce que j'ai remarqué, moi, quand j'ai eu la chance d'interroger pas mal de franco-cambodgiens, c'est que cette question du corps, elle revient, puisque dans la question de la mémoire, souvent, quand on est enfant ou adolescent, il y a une volonté aussi de mettre sous silence une part de nous-mêmes, une part d'identité qui nous représente pas forcément, qui est cette part d'asiatique en nous. Et donc, quand les parents arrivent, et donc il y a un travail d'intégration, d'intériorisation qui est fait, il y a cette volonté de mettre sous silence cette partie de nous-mêmes. Et le corps apparaît comme une forme de stigmate, pour reprendre un terme de sociologue de Goffman dans l'interaction, un stigmate qui vous rappelle perpétuellement cet ailleurs ou cette part d'identité que vous ne voulez pas forcément assumer ou que vous ne voulez pas forcément mettre en avant. Donc c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est par rapport à c'est plus une intuition personnelle que quelque chose de très scientifique, mais j'ai l'impression que cette idée de masculinité hégémonique, on en parlait un petit peu en filigrane, mais cette idée que voilà, il y a un modèle qui domine et que du coup ce modèle-là construit aussi le modèle asiatique plutôt marginalisé, etc. Il se fait par aussi cette question de la mémoire. C'est-à-dire que les enfants franco-cambodgiens, souvent, quand on regarde le modèle du père, on a du mal à avoir finalement un modèle de virilité. C'est-à-dire que moi, personnellement, le rapport que j'ai eu avec mon père et donc avec le modèle qu'a représenté mon père, c'était plus un rapport parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu un fait migratoire, et donc du coup parce qu'il a voulu s'intégrer et que je sais les difficultés qu'il a, etc. Parce que aussi je sais les marques du passé et toute cette histoire qui l'a défini, c'était beaucoup plus un rapport à une vulnérabilité qu'un rapport à une autorité, à une force ou à quelque chose de très viril en fait finalement. Donc c'est aussi les enfants, enfin je sais pas pour toi Stéphane, mais en fait les enfants de cette génération-là qui sont nés en France, mais avec cet héritage-là, bah, on s'est aussi construit sur ce modèle qui voyait plus le père comme voilà, quelque chose de vulnérable, peut-être pas, mais quelque chose qui n'est absolument pas synonyme de virilité ou de force et sur lequel on pourrait s'appuyer. Et donc, alors je termine juste sur ça, mais cette vulnérabilité, évidemment, elle n'est pas autosuffisante, mais s'ajoute à cela tout ce qu'on se disait au début de l'émission, c'est-à-dire qu'un ensemble de représentations collectives qui vont légitimer cette vulnérabilité. Et tout à l'heure, on parlait de l'absence dans les médias, de modèles de masculin asiatique qui pourrait être valorisé. Bah, cette absence-là, qui s'ajoute à ce regard, nous, des enfants que l'on porte au père et à cette vulnérabilité-là, et toute l'histoire que ça engage, eh bien, ça construit effectivement une forme d'intériorisation de cette infériorité, de cette vulnérabilité que l'on a par rapport à ça.
Concrètement, quand tu dis le rapport au corps de mon père et tout, le corps de ton père à toi et à celui de tes enquêtés aussi, il est marqué, c'est ça, par les guerres, par
Oui, alors il peut être marqué physiquement, c'est-à-dire que j'ai alors mon père, il est marqué physiquement, voilà, par des blessures, etc. J'ai la chance d'avoir eu accès à une personne qui est vraiment passionnante, qui est un artiste franco-cambodgien et dont la mère l'a porté pendant le génocide et qui est née aussi du coup avec des problèmes de santé, des maladies, etc.
À cause de la malnutrition de sa mère.
À cause de la malnutrition. Donc vous voyez, le corps peut porter vraiment des marques vraiment de ce passé, de cette histoire-là. Et ensuite, tout ce qui est représentation collective, quoi. C'est-à-dire que quand... moi, mon père, jamais je l'ai défini comme quelqu'un de viril, malgré qu'il m'ait montré Bruce Lee et qu'il fasse de la moto tous les jours.
Moi, je pense que s'agissant des migrations de l'Indochine, mais je pense qu'on peut l'étendre à toute forme de migration, hein, l'imagerie collective qu'il y a eu autour de ce qu'on appelait les boat people, c'est-à-dire les charniers des génocides, du génocide cambodgien, S21, les corps...
C'est quoi S21?
C'était la prison où étaient torturés des hommes et des femmes opposant au régime de Pol Pot, des Khmers rouges. Voilà. Mais il y a vraiment eu des images qui ont voyagé partout. C'était avant Internet, etc. Et donc il y avait des images uniques qui ont voyagé, qui ont marqué les esprits. On a dit oh les pauvres, etc. Enfin, il y a vraiment eu cette image associée à ça. Et je pense qu'on peut l'étendre à tout ce qui était les corps usés, c'est-à-dire l'usage des corps par la colonisation, par l'esclavage. Par l'histoire de domination et tous ces corps, donc notamment masculins, puisque la force est tout à fait, enfin, associée au corps masculin dans le travail pénible, etc. Ces visions de ces pères ouvriers arqués, le dos, plus vieux qu'ils ne devraient être physiquement, ça, c'est des images. Je pense qu'il y a une espèce de double soumission, c'est-à-dire qu'il y a la soumission du fait que ce sont effectivement une infériorité sociale, c'est-à-dire qu'on arrive là, on recommence à zéro. Je parle pour les personnes qui ont migré en France. Et je pense que par rapport aux Asiatiques, il y a la double soumission du fait qu'en plus, il y avait une imagerie déjà de déféminisation.
Déféminement.
Déféminement, voilà, tout à fait. Et donc, il y a deux choses qui vraiment... et cette féminisation des corps asiatiques, je pense qu'on la retrouve beaucoup dans la pop culture. Et parce qu'elle a été construite et travaillée depuis le début.
Et toi, Stéphane, est-ce que tu as une expérience similaire ou un peu différente par rapport au corps de ton père, à ta vision du corps, de la mémoire des hommes asiatiques ?
Relativement similaire. J'ai juste ajouté une petite chose. C'est vrai que par rapport à cette génération de nos parents ou de nos grands-parents selon notre âge, mais de cette génération qui a migré, ce sont des personnes qui ont... comme disait Grèce, recommencer à zéro. Donc, ils ont changé complètement de statut social. Des gens qui ne font en France pas le métier qu'ils avaient là-bas. Enfin, donc, c'est toute une sorte de dévalorisation, entre guillemets, d'une image qu'ils ont pu avoir. Donc, quand on a un père qui peut être ouvrier ou avoir un métier manuel ou qu'il n'avait pas... ça ne l'aide pas forcément dans son image de lui-même et donc dans l'image qu'il transmet à son enfant. Donc voilà. Donc je pense que la migration, l'adaptation, le choc culturel, linguistique, social, professionnel participent à tout ça. Quand on est dans un mouvement plutôt de survie, j'ai envie de dire, on pense pas être sexy ou viril.
Vous savez, on hérite d'un corps qu'on n'a pas choisi. Bon, la mémoire, c'est pareil. Vous héritez d'une histoire que vous n'avez pas choisie. Et il va falloir faire avec. Macron parlait de l'art d'être français. Je pense que c'est le rapport au corps est un rapport à la créativité, à être créatif. À partir de tout ce dont on se parle là aujourd'hui. Et l'homme asiatique, en tout cas moi personnellement, je le vois comme ça. J'essaie de me créer quelque chose à partir à la fois de représentations collectives qui me font défaut, à partir d'une mémoire que j'assume et pas toujours encore. Donc voilà, c'est un travail en permanence. Je pense plus que la présence de Stéphane en tant que comédien et scénariste. A un sens de ce point de vue-là aussi.
Et bien justement, on va parler là des représentations dans l'art, dans la pop culture. Gracely, toi, tu as, parce qu'on a beaucoup discuté avant de ce sujet, et toi évidemment ça t'intéresse depuis très très longtemps, tu regardes comment sont représentées les âmes asiatiques dans la pop culture. Est-ce que tu peux nous présenter la petite typologie que tu as préparée des âmes asiatiques telles qu'elles sont représentées?
Alors dans la pop culture, j'ai constaté que, enfin, il n'y a pas que moi, je pense que beaucoup l'ont constaté, que les hommes asiatiques sont utilisés dans les représentations collectives comme outils de valorisation des masculinités hégémoniques. C'est-à-dire que, moi, il y a deux types d'hommes asiatiques que je peux voir depuis le début. C'est-à-dire, depuis le début du cinéma, par exemple, parce que je pense que l'art visuel a beaucoup contribué à cette représentation collective. Il y a soit le mec qui fait du kung-fu. Il est robuste, il est dangereux. Mais par contre, il parle avec un accent. Et il y a le geek qui fait des folies avec des algorithmes, mais quand il s'agit de draguer sa petite copine, alors là, il n'y a plus personne. Donc voilà, en fait, ces deux images, ça va depuis le début des années 1900, type Fu Manchu, c'est vraiment l'une des figures dans le cinéma hollywoodien qui revient.
Fu Manchu, c'est le film Le Masque de Fu Manchu, un film de 1932. Où, si je me souviens bien, ce personnage-là de Fu Manchu, il encourage ses compatriotes à tuer l'homme blanc pour lui prendre ses femmes.
Ouais, c'est ça, c'est le méchant chinois, fourbe, etc. Et alors, à noter, mais ça on en parlera une autre fois, je pense, que tous ces personnages-là du début du cinéma sont whitewashés. Ça veut dire qu'ils sont, c'est des personnages asiatiques qui sont joués par des personnages blancs. Donc là, c'est Sax Rohmer qui joue Fu Manchu. Et donc, du coup, avec un accent, puisqu'il faut, il faut représenter l'homme asiatique. Donc, il parle comme ça, ching, 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 tu vois, voilà. Et donc, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a Marlon Brando qui a joué Sakini dans, je ne sais plus, ah oui, la petite maison de thé. Enfin, voilà, en tout cas, tous les acteurs s'y sont donnés. Et ça va jusque très récemment, puisque dans The Hangover, Very Bad Trip, il y a Ken Jeong, un homme asiatique, qui joue encore ce genre de personnage. Après, il est beaucoup plus complexe, hein, Ken Jeong. Hein, mais en tout cas, il joue cet homme nu qui sort d'un coffre de voiture et qui et le mec en face lui dit « Mais moi aussi, j'aime bien Godzilla !» Où est le rapport ?
D'accord.
Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, ça, okay, c'est
encore... Il y a ces deux pôles, quoi. C'est, ouais, le geek asexué.
Ouais, c'est le mec safe ou le mec dangereux. En tout cas, c'est deux outils pour valoriser le personnage principal, qui n'est jamais ce personnage-là, évidemment. Tu vois. Et est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous avez remarqué et est-ce qu'on vous a déjà demandé si vous faisiez du kung-fu ou si vous étiez hyper bon en maths? Voilà, tout ça, ça vient de là, en fait.
Ben, forcément, oui. En fait, ces clichés sont véhiculés depuis tellement longtemps et de façon tellement généralisée que forcément, ça imprègne. Donc, ces clichés-là perdure, existe. Donc forcément, oui, si on n'est pas bon en arts martiaux, on est bon en sciences et en maths. Donc voilà, après, si on est bon plutôt en français et en langue, c'est un peu bizarre. Donc oui.
Je pense que c'est pour décomplexifier les choses aussi qu'on se dit tout ça. C'est-à-dire que le rapport que l'on a à, entre guillemets, l'étranger aussi, il est beaucoup plus facile quand vous mettez des images stéréotypées pour le définir. Parce que finalement, sans rentrer dans les détails, mais comme je pense que si quelqu'un aujourd'hui vous rencontrez un Cambodgien, il est quand même très compliqué de se dire, bon voilà, c'est quoi son histoire, mais il est né ici, mais ses parents ont fui. Enfin bon, vous voyez, alors que l'idée de c'est un Khmer, enfin c'est un Chinois, parce que voilà, il n'y a pas différence entre chinois et cambodgien. C'est un chinois et c'est ça qui représente sur mon modèle à moi que j'ai en tête et qui sont véhiculés depuis des années. C'est beaucoup plus facile que de se dire c'est un français, pas comme les autres, avec cette spécificité-là, etc. etc. Donc c'est une grille de lecture aussi qui en gros facilite finalement l'interprétation des uns et des autres. Et je pense que notre génération a le travail peut-être aussi de déconstruire ces grilles de lecture-là. Et les artistes, moi j'ai eu la chance d'interroger pas mal d'artistes sur cette question, voilà, de l'identité, etc. Je pense qu'il y a une volonté de déconstruire cette grille un peu facile des stéréotypes. Donc pas forcément de faire des films où les Asiatiques sont représentés comme tout le temps, de pas faire, voilà, et de faire des films qui sont pas forcément non plus en rapport avec l'Asie, alors qu'on est soi-même asiatique. Enfin, vous voyez, on essaie, je trouve, cette génération
alors,
de déconstruire tout ça.
Qui essaie ? Moi, j'aimerais bien aussi hein, qu'il y ait de plus en plus de personnages asiatiques où ce soit même pas un sujet, en fait. C'est-à-dire,
Absolument. Il
joue un personnage avec sa vie, ses intérêts, ses motivations et tout, et sans même qu'il soit mentionné le fait qu'il soit asiatique. Mais j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas beaucoup ça qui existe, non ? Enfin, Stéphane, vous, c'est votre... Toi, c'est ton domaine de spécialité. Toi, t'écris des films, t'écris des pièces, et tu regardes tout ça de très très près.
Oui, j'essaie de surveiller ça, puisque ça me concerne. Effectivement, il y a plusieurs raisons qui font que on n'est pas nombreux, c'est-à-dire qu'on a quand même été élevé par une génération qui considère que les métiers sérieux sont ceux liés à la médecine ou éventuellement à l'informatique. Donc nos parents ne nous encourageaient pas forcément à suivre des métiers artistiques. Donc ça explique déjà un peu en partie le fait qu'on soit pas très nombreux. Donc voilà, après, heureusement, il y a des personnes qui essaient qui ont envie de s'exprimer et qui le font. Donc que ce soit par exemple en théâtre comme Caroline Nguyen qui a fait la pièce Saïd qui a joué aux ateliers Berthier, qui revient là en juin. Voilà, ça commence un peu à émerger, mais c'est pas évident, parce que c'est aussi un serpent qui se mord la queue, parce qu'on entend aussi souvent, non, ce sujet, ça va intéresser plutôt la communauté. Donc voilà, or, si on s'en donne un peu la peine et les moyens, on se rend compte que les sujets peuvent être aussi universels, ils peuvent être abordés à travers un angle très spécifique, certes, mais toucher un grand nombre de personnes. Quand on parle d'exil, si je parle d'exil via l'angle d'une famille vietnamienne, je parle aussi d'exil en général. Donc, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc voilà, mais il faut s'accrocher surtout, parce qu'on est quand même dans un système qui met du temps à bouger, avec énormément de facteurs entre l'idée d'un film et sa concrétisation, parce que c'est pas juste je prends ma caméra et je filme, on peut le faire. Ça veut pas dire que notre film sera vu, donc c'est un peu dommage de faire, mais c'est bien de le faire quand même. Hein. Donc je pense que c'est un travail de longue haleine, mais qui néanmoins est en train de frémir. Je dis frémir parce que c'est encore léger, mais j'espère que ça va bouillir.
Ça, on parle pour la France.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a comme acteur d'origine asiatique en France ? Moi, je pense qu'un seul, c'est Frédéric Chau.
Oui, il y a Frédéric Chau qui a joué dans des films blockbusters, hein, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Oui, mais alors, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il joue l'homme asiatique, c'est ça son rôle. Quoi.
Alors moi, j'ai une anecdote à raconter sur Frédéric Chau, parce que quand je l'ai rencontré pour la première fois en chair et en os, je l'ai trouvé hyper beau.
Il est hyper beau.
Ouais. Mais il est vachement plus beau que dans les rôles qu'on lui donne. Et du coup, j'ai réalisé en le rencontrant et en voyant qu'il était séduisant, je me suis dit, mais en fait, il a que des rôles. Il joue que des rôles de canard, en fait. Il joue que des rôles.
C'est quoi
il...
un canard ?
Bah, le mec, pas. Le mec. Non, on ne dit pas ça chez les mecs, le canard.
C'est quoi un canard ? Non, j'ai jamais entendu.
Le mec, dans Qu'est-ce qu'on a fait au
bout ? Ah oui, le mec ridicule, en fait.
Ouais, voilà. C'est le gendre faillot qui est un peu lèche-cul, tu vois, par rapport aux autres gendres de la famille, de cette famille formidable. Et je
Donc
me suis
rappelle,
dit,
c'est une comédie qui est entièrement basée sur les clichés racistes. Hein.
C'est ça. C'est quand même. Et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, il a jamais eu un rôle qu'il a mis en valeur de la manière, enfin, en tout cas, en tant que personnage principal qui fait tomber la fille. On a tellement une tradition et une habitude et un réflexe de voir le même personnage principal qui concentre l'histoire, qui sauve la terre et qui emballe la gamine, que dès qu'il y a un personnage secondaire qui est là, qui n'est pas conforme au modèle hégémonique qu'on voit, eh ben, il n'a pas de consistance, il n'a pas de vie, il n'emballe pas. On dit qu'il est invisible, mais en fait, c'est pire que ça. En fait, c'est que quand tu dis oui, si je fais un personnage asiatique, forcément, c'est communautaire. On l'a vu, ça, en France, avec la sortie du film Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians, c'est un film.
Vous avez tout un épisode là-dessus, hein, dans Kiff Taras, d'ailleurs.
Absolument, oui. C'est un film où il y a un casting 100% asiatique américain. Donc, on ne parle pas de film de cinéma asiatique, comme on appelle ça, c'est-à-dire où il faut une traduction, etc. Quand il est sorti, la presse française. Le Parisien, pour ne pas les citer, a dit « Ah, c'est niaiserie communautaire ». Mais ce mot « communautaire », il n'a été utilisé que parce que le casting n'est pas blanc. Parce que ce serait la même chose. Blanc, il aurait juste dit « c'était niaiserie ». Pas besoin de mettre « communautaire » parce qu'ils sont blancs. Mm-hmm. En ce sens que la référence, c'est quand même la blanchité. et pas... On ne peut pas voir l'universel dans des faciès asiatiques ou autres.
Alors, bah, du coup, on peut peut-être parler du cinéma américain. Il y a quand même plus d'espoir du côté de la pop culture américaine et du cinéma américain, non ?
Ben, disons que, comme d'habitude, ça bouge un peu plus rapidement, notamment aussi parce que... les personnes s'expriment plus aussi là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, des lobbies, que ce soit des comédiens d'origine asiatique, qui sont bon, plus nombreux peut-être, mais en tout cas plus virulents et qui n'ont pas peur de s'exprimer. Ici, on n'est pas très nombreux à s'exprimer sur ce sujet. Donc, les choses bougent. Ils n'ont pas peur de dire que les Oscars sont trop blancs telle année ou... Et du coup, les mentalités changent un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, je pense que le changement commence plutôt déjà sur les petits écrans, sur les séries qui ont un peu plus d'audace, on va dire. Le cinéma est encore un peu plus empesé, mais ça commence à bouger parce que Crazy Rich Asians a été un très gros succès là-bas. Donc, forcément, ça a marché, ça fait des dollars. Bon, on commence à voir les choses différemment.
On peut citer, par exemple, Master of None.
On peut citer Master of None, avec Aziz Ansari, qui est donc d'origine indienne,
je pense.
Ouais. Je crois. Ouais. Et qui est le personnage principal, et c'est pas une problématique. On parle de lui en tant que comédien, certes aussi avec ses origines, ses parents, ses traditions, etc. Mais voilà, c'est un personnage principal avec ses mésaventures professionnelles, sentimentales, etc.
Sentimentales surtout. Enfin, moi, je pense que le fait de parler d'une personne asiatique, d'un homme asiatique qui a des relations sentimentales, sexuelles, etc.
Et autres.
Avec son environnement. C'est quelque chose d'important, c'est un vrai... Voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, puisque c'était l'homme qui n'emballait pas, ou le
friendzoné. C'était le bon copain, voilà. Éventuellement. Effectivement, et puis, on en parlait tout à l'heure, mais il y a quelques séries comme donc Crazy Ex-Girlfriend.
Ah oui, alors, donc Crazy Ex-Girlfriend, ça, moi, c'est ma série préférée, et c'est vrai que dans cette série-là, le personnage principal qui a été écrit et qui est joué par Rachel Bloom, donc c'est le personnage de Rebecca Bunch. En fait, toute la série est construite autour de sa passion folle et obsédante pour un homme qui s'appelle Josh Chan. Et Josh Chan, il est joué par comment il s'appelle l'acteur, Roberto Rodriguez III.
Vincent Rodriguez III.
Vincent Rodriguez.
Ouais, c'est ça, ouais.
Vincent Rodriguez III. Et lui, il est d'origine philippine.
Ouais. Mm-hmm.
Et en fait, ce n'est même pas un sujet dans la série, en fait. C'est juste l'amour de sa vie. Elle est obsédée par lui, elle rêve de lui, elle veut coucher avec lui, etc. Et voilà, c'est le love interest principal de ce personnage. C'est vrai que c'est assez nouveau, quoi. Et c'est très rafraîchissant,
quitte,
en fait.
Elle quitte tout pour...
Pour le suivre en Californie.
Pour le suivre, pour le retrouver, pour essayer de le séduire. Et effectivement, le fait qu'il soit asiatique n'est pas une question à un seul moment. Et de façon globale, en dehors du fait que ça change aussi d'avoir des visages nouveaux, des situations un peu différentes et que ce soit pas tout un plat, c'est un fait donné, point barre. Et en même temps, voilà, c'est son petit coup de folie et on a envie de la suivre.
Et la série est très très forte, hein, pour ça. La même chose quand il y a un personnage, par exemple, qui y a un personnage de femme qui est hétérosexuelle et après elle se met avec une fille et ça n'est jamais discuté pendant la série, en fait. Ça n'est pas un sujet, c'est juste des faits. Donc c'est une série vraiment que je conseille, que je trouve très... Ouais, c'est très rafraîchissant, très novatrice, très drôle en plus, donc sur toutes ces questions-là, quoi, à la fois raciales et de représentation de différentes orientations sexuelles, de genre, etc.
J'aimerais aussi citer la série Fresh Off the Boat, qui est sur ABC pour la cinquième ou sixième saison, là maintenant, qui a été créée d'après le livre de Eddie Huang, qui est d'origine asiatique, et Constance Wu, qui joue la rôle de la mère, qui, voilà, c'est une série qui a quand même aussi, depuis plusieurs années, travaillé l'image des Asiatiques aux États-Unis.
Tout à fait.
Et qui a permis à Crazy Rich Asians, je pense, de voir le jour. C'est ce genre de...
Mmh, absolument.
Et moi, j'aimerais aussi citer Steven Yeun. Qui est d'origine coréenne, qui a joué dans The Walking Dead et qui a fait un tollé quand il est mort, d'ailleurs, dans la saison 7, je crois.
Spoiler.
Et donc, il y a carrément des gens qui ont demandé, il y a eu tout un truc où les gens se disaient « Non, il faut qu'il revienne dans la série et tout. » Et là, je me suis vraiment rendu compte que... Enfin, moi, je ne regarde pas The Walking Dead, ça me fait trop peur. Mais je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des gens qui aimaient son personnage au-delà du fait de qui il était physiquement. Donc, il y a John Cho dans Star Trek et dans d'autres séries de Harold et Kumar, il fait aussi. Et voilà. En tout cas, enfin, moi, pour moi, il y a énormément de séries aujourd'hui et de films qui, enfin, notamment les films indépendants qui vont à Sundance et tout. Hein. On n'a pas forcément accès à ces films-là, mais cette créativité, elle s'exprime avec des personnages complexes, humains, c'est-à-dire réhumanisés. Enfin, on leur a redonné une épaisseur,
une complexité.
Mm-hmm. Voilà. Et ça, je pense que ça se joue vraiment au niveau du screenwriting. Et je pense que toi, enfin voilà, Stéphane,
donc de l'écriture de scénario, mais pour l'instant plutôt outre-Manche ou plutôt outre-Atlantique. Quoi. Ben,
c'est-à-dire que surtout la question qui se pose, c'est aujourd'hui de commencer à prendre la parole, je pense qu'il est temps, et de raconter nos histoires de l'intérieur avec notre vécu. Donc effectivement, les personnages pour moi sont des personnages point barre. Il s'avère qu'ils sont d'origine vietnamienne, parce que c'est de ça dont je parle dans mes films, mais ils doivent être complexes comme n'importe quel bon personnage, si on peut, d'un film. Donc voilà. Donc, et puis, c'est vrai que j'essaie quand même d'aller, dans la mesure du possible, à l'encontre des clichés. Pour moi, j'estime que mes personnages et les comédiens qui les interprètent sont séduisants. Et je n'ai pas envie de... Voilà. Je pense qu'on a suffisamment souffert des clichés pour pas nous-mêmes... en reproduire, tout simplement. Ce serait assez stupide et assez catastrophique, je pense.
Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à...
Non, mais sur cette note positive, je pense qu'effectivement, on est au tout début d'une déconstruction, voilà, de toutes ces représentations collectives. Elle passera par cette déconstruction, par le travail d'artistes de cette génération-là, qui sont investis dans la question, qui essaient d'être créatifs par rapport aussi
au rapport au corps.
Et mm-hmm. Je pense que c'est essentiel, et ces lieux-là de partage, comme ce matin, je pense qu'ils sont aussi fondamentaux dans ce travail-là, qui commence tout juste à émerger, mais je pense que c'est normal qu'il commence maintenant, et j'espère qu'on poursuivra au fur et à mesure.
Est-ce que on peut mettre un extrait sonore pour terminer cette émission ? J'aimerais mettre un extrait d'une femme qui fait l'autopromo des hommes asiatiques.
Asian American men are very underrated. I don't know why people don't go for them. They got no body hair from the neck down. It's like making love to a dolphin. Oh my God.
Donc ça, c'est un extrait du spectacle de l'humoriste Ali Wong.
Ouais, ça s'appelle Baby Cobra, c'est sur Netflix. Et c'est mon humoriste américaine préférée parce qu'elle fait une promotion... des hommes asiatiques comme jamais. Elle dit des trucs incroyables. Et vraiment, ça
mais attends,
ça change.
Mais c'est OK de dire ça, de dire les hommes asiatiques, ils sont vraiment super. C'est comme faire l'amour avec un dauphin parce qu'ils n'ont pas de poils. C'est aussi super fétichisant et essentialisant, non ?
Mais écoute, moi, je pense que par rapport à là où d'où on vient, enfin, en tout cas, moi, je parle en tant que femme, hein, c'est-à-dire, moi, ça me fait du bien de voir une femme asiatique dire qu'elle kiffe les hommes asiatiques parce qu'ils sont sexy, parce qu'à un moment, elle dit même « ils n'ont pas d'odeur corporelle, ils sentent la responsabilité ». Et ça, je trouve ça tellement drôle, on dirait ma mère qui parle. Moi, je pense que les clichés, c'est bien quand on en joue et c'est bien quand on les retourne. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est interdit de dire qu'ils n'ont pas de poils, parce qu'effectivement, il y a des hommes asiatiques qui n'ont pas de poils. Et autant en faire un atout dans une société qui valorise le côté imberbe des femmes, pourquoi est-ce qu'on ne valoriserait pas le côté imberbe des hommes ?
Oui, et qui au contraire valorise le côté d'avoir de la pilosité, une grosse barbe.
Absolument.
Et tout, qui sont encore
quand
des marqueurs de virilité chez les hommes.
Donc ouais. Voilà, donc c'est vrai que jouons des clichés plutôt que, enfin, comme elle le fait de manière très, très subtile, et pour moi, c'est, enfin, pour moi en tant qu'asiatique, c'est une libération dans tous les sens.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir pris ce temps-là et d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci.
Merci à vous.
C'était donc le crossover de deux podcasts de Binge Audio, Les Couilles sur la Table
et Kiff ta race.
Vous pouvez trouver toutes les informations, les références, les travaux qu'on a cités sur l'article qui accompagne l'épisode.
Et sur quoi on t'écrit, toi, Victoire, si on veut parler de l'épisode avec toi ?
Alors, c'est sur l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio, ou sinon par message Twitter, ou par message Instagram, ou par message Facebook. Enfin, il y a 12 000 manières
t'es
de
partout,
me joindre.
T'es partout.
Et toi ?
Alors, moi, c'est Kiff ta race. @binge.audio ou sur les réseaux avec le hashtag KiffTaRas. Et on fait un gros bisou à Rokaya Diallo qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là en filigrane avec nous.
Et moi, j'adore écouter ce podcast KiffTaRas.
Moi aussi, j'adore les couilles sur la table.
Bon, bah voilà.
Love, love,
d'amour.
Love, love, love.
Merci, Grace.
Merci, Victoire.
Binge. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.